vous remercier de votre invitation. Ça me permet de retrouver ou de reprendre contact avec un pays que je fréquente depuis près de 40 ans maintenant. Mon premier séjour au Mexique remonte à 1973, alors que j'étais en route vers mon premier poste avec les affaires étrangères du Canada, à l'ambassade du Canada à La Havane. Et le Mexique, c'était le pays où le ministère envoyait les jeunes agents pour apprendre l'espagnol et mieux connaître la culture latino-américaine. Je dois dire qu'après avoir appris l'espagnol au Mexique, quand je suis arrivé à Cuba, je me suis dit, ben, c'est peut-être pas la bonne langue que j'ai apprise. J'ai constaté qu'il y avait quelques petites différences. Au niveau de la prononciation et du vocabulaire, j'ai fait quelques gaffes parfois. Alors, plus tard, évidemment, j'ai eu l'occasion de mieux connaître le Mexique. J'ai été directeur général des Amériques au ministère des Relations internationales à Québec. Et à ce titre, j'ai eu à organiser plusieurs missions, coordonner plusieurs missions importantes du Québec vers le Mexique. Et par la suite, ben, couronnement et fin de ma carrière, j'ai été délégué général à Mexico de 2000 à 2004. Donc, évidemment, je vais parler un peu plus de choses, peut-être, enfin, je pense que c'est encore très actif, là, mais ma connaissance des relations remonte à quelques années. Et comme je suis à la retraite, ben, évidemment, je parle en mon nom personnel. Alors, le titre original du panel de ce matin, je crois que c'était « Les relations diplomatiques Québec-Mexique ». Alors, j'ai fait remarquer, pensant que peut-être mon ami Claude me rappellerait ça, le Québec, évidemment, est un État fédéré, donc on n'a pas comme tel de relations diplomatiques avec le Mexique. Mais par contre, nous avons une relation qui est très riche et très variée. Et c'est ce que je vais... Enfin, le Consul général a évoqué plusieurs des thèmes que je vais soulever, mais c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, pourquoi est-ce que le Québec doit s'intéresser au Mexique? Ensuite, je vais vous montrer un peu dans quel cadre s'articulent les relations gouvernementales et institutionnelles. Et finalement, ben, je dirai quelques mots des enjeux ou des obstacles au développement de la relation. Quelques-uns ont été mentionnés par le Consul général. Alors, pourquoi s'intéresser au Mexique comme gouvernement québécois? Je dirais simplement que parce que c'est un pays important. On connaît tous la richesse de l'histoire et de la culture du Mexique, mais c'est un pays qui aujourd'hui est d'une importance capitale d'abord par sa démographie, 115 millions d'habitants, et qui compte une classe moyenne éduquée et qui est en bonne croissance. Par son économie aussi, le Mexique est une des grandes économies du monde. Le Mexique est membre de l'OCDE et son PIB le place parmi les 10-12 plus grandes économies mondiales. Son système politique est stable et le Mexique participe aux grands forums mondiaux avec une influence qui est quand même relativement importante. Alors, le Québec partage avec ce pays trois caractéristiques importantes. Nous sommes du même continent, donc des presque voisins, et nous partageons le même voisin imposant. Il y a un ancien président du Mexique, je ne me souviens plus lequel, qui disait... C'est pas fait. Oui, c'est ça, hein? Alors, qui disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis ». Alors, peut-être qu'on pourrait dire la même chose du Québec d'aujourd'hui. Alors, nous sommes de langue et de culture latine et nous appartenons au même espace économique, c'est-à-dire l'ALENA. Donc, au plan économique et commercial, l'appartenance au même continent et au même espace facilite l'accès au marché, tant au niveau du transport que des règles commerciales. Notre commerce avec le Mexique se fait selon les règles de l'ALENA, ce qui fait que nous avons un accès préférentiel. Dans ce contexte, le Mexique est devenu le cinquième partenaire commercial du Québec dans le monde. Je ne sais pas si c'est ce que vous nous aviez dit ou à peu près. Comme vous dites, les chiffres ne correspondent pas toujours. Et le premier en Amérique latine. Nos exportations ont connu une croissance annuelle moyenne de 10% depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA. Nos importations, cependant, ont cru encore davantage, de sorte que notre commerce avec le Mexique est fortement déficitaire. Et surtout, la part de nos exportations dans les exportations totales du Canada est faible, entre 15 et 20 % chaque année. Alors, le consul vous a déjà donné un certain nombre de statistiques, je n'insisterai pas. Dans le domaine culturel, surtout à cause de notre latinité partagée, nos artistes et nos créateurs trouvent au Mexique des partenaires et un marché accueillant. La proximité géographique et culturelle permet également des rapprochements faciles entre Québec et Mexicains dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle, des échanges de jeunes ou entre chercheurs et universitaires. Ces échanges sont facilités par un ensemble de programmes et d'ententes institutionnelles sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Finalement, la proximité favorise évidemment les échanges touristiques. Comme vous a mentionné le consul général, comme dans le commerce, nos échanges avec le Mexique sont fortement déficitaires. Alors nous, d'après nos chiffres, en 2011, à peu près 300 000 Québécois qui sont rendus au Mexique, alors que la même année, c'est à peu près 23 000 touristes mexicains qui sont venus ici. Alors les Québécois dépensent 275 à 300 millions de dollars annuellement au Mexique, alors que les Mexicains n'en dépensent que 90 à 100 millions maintenant. Mais comme vous a dit le consul général, l'entrée en vigueur des mesures canadiennes là, qui imposent un visa aux ressortissants mexicains a vraiment, pas tué, mais en tout cas a fortement décéléré la croissance du tourisme mexicain. Avant 2009, le tourisme mexicain était le tourisme international qui était en plus forte croissance au Québec. Alors, on est passé de 52 000 entrées mexicaine en 2008 à 19 000 en 2010. Alors depuis, là, il y a une légère remontée, mais c'est vraiment encore très faible. Alors voyons maintenant un peu dans quel cadre et par quels moyens se développent ces relations. Alors par le biais de trois canaux principaux, dont plusieurs ont été mentionnés par le consul général. Alors d'abord la présence diplomatique de part et d'autre, les engagements internationaux et les missions et rencontres de haut niveau. Alors, au niveau diplomatique, évidemment, il y a le consulat général du Mexique ici à Montréal. Le consul vous en a parlé. Et moi, je vais vous parler un peu plus de la délégation générale du Québec à Mexico. Alors, elle a été créée en 80 par décret du gouvernement René Lévesque. Et elle devenait alors la sixième délégation générale du Québec à l'étranger et la première en Amérique latine. Le niveau de délégation générale, évidemment, c'est le niveau le plus élevé de la représentation du Québec à l'étranger. Une délégation générale, c'est celle qui a un mandat général, comme son nom l'indique. Alors, elle touche à tous les domaines de l'action internationale du Québec, que ce soit les relations gouvernementales, l'éducation, la culture, les relations économiques et commerciales. Et à Mexico, il y a également un bureau d'immigration. Alors, évidemment, quand le Québec a signifié son intention d'ouvrir une délégation générale en 1980, évidemment, c'était l'année du premier référendum au Québec. Alors, c'est sûr que ça a soulevé quelques difficultés d'ordre, disons, diplomatique. Le Mexique était, je pense, probablement un petit peu embêté par cet intérêt du Québec, de sorte qu'il y a eu des négociations entre Québec et Ottawa. Finalement, il y a eu un accord entre Québec et Ottawa, et c'est par le biais d'une note, d'une demande du gouvernement fédéral canadien que le Mexique a accepté l'ouverture d'un bureau du Québec. Et ce bureau-là, qui aujourd'hui compte une trentaine d'employés, a un statut, je dirais, privilégié ou enfin particulier. Et nous avons toutes les facilités pour pouvoir opérer et conduire notre mission au Mexique. Maintenant, le deuxième moteur de développement des relations, là, outre évidemment les présences diplomatiques qui sont des canaux, c'est celui des ententes de coopération. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de signés au cours des 30 dernières années, soit avec l'État fédéral mexicain, avec ses organismes ou avec les les États fédérés du Mexique. Alors, au centre de la coopération, comme vous indiquez le consul général, c'est le groupe de travail Québec-Mexique, qui est une véritable commission permanente de coopération. Elle n'en porte toutefois pas le nom. Alors, le groupe a été créé en 82, soit 2 ans après l'ouverture de la délégation générale. Et là encore, ben, il y a eu des négociations entre Québec et Ottawa. Étant donné que le Canada avait déjà un accord de coopération avec le Mexique, il avait déjà une commission mixte, et en particulier en matière de culture. Donc, il a fallu qu'on trouve une façon d'introduire le Québec dans cette coopération, de sorte qu'au départ, le groupe de travail a été créé comme une entité placée sous l'accord mixte de coopération Canada-Mexique. Mais aujourd'hui, à toute fin pratique, le groupe de travail travaille de façon autonome Québec-Mexique. Alors, le conseil général vous a parlé de la dernière réunion du groupe de travail qui s'est tenue en juin dernier. Et la façon dont le groupe travaille, c'est qu'il se réunit en principe à tous les 2 ans. La 14e réunion a eu lieu en juin dernier à Mexico. Et on établit une programmation bilatérale qui permet aux différents ministères et organismes des deux entités de coopérer sur la base de projets concrets. Il y en a 24, je crois, qui ont été retenus pour les 2 prochaines années. Outre la commission permanente ou le groupe de travail Québec-Mexique, le répertoire des engagements internationaux du Québec d'aujourd'hui contient 15 accords qui sont en vigueur. Plusieurs sont d'intérêt pour les milieux universitaires et étudiants. Parmi les plus importantes, il y a celle de 2011, renouvelant la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. Elle prévoit, comme le dit M. Del Rio, l'octroi de bourses d'exemption de droits de scolarité majorés. Comme vous savez, les étudiants étrangers paient normalement au Québec des droits majorés de scolarité, mais l'entente qui existe depuis plusieurs années, mais qui est renouvelée périodiquement, prévoit présentement l'octroi de 50 bourses d'exemption du côté à des étudiants mexicains du 2e et 3e cycle. Elle prévoit également l'octroi de bourses d'excellence à des Mexicains du nouveau doctorat et postdoctorat. Le gouvernement mexicain, pour sa part, offre des bourses complètes au niveau de la maîtrise et du doctorat des étudiants québécois. Et l'entente prévoit également l'échange d'enseignants ou d'assistants de langue française et espagnole. En 2011 également, il y a une entente qui est intervenue entre le gouvernement du Québec et le CONACYT, le Conseil national de la science et technologie du Mexique, qui établit un cadre de collaboration et d'échange en vue d'assurer le développement conjoint d'activités et de projets en matière de recherche scientifique. Une troisième entente, portant celle-là sur la formation professionnelle et technologique, prévoit des échanges d'étudiants et le partage d'expertise en enseignement dans un cadre qui permet la collaboration entre les cégeps et les universités technologiques mexicaines. Pour les jeunes également, il y a une entente qui lie depuis le début des années 80 l'OCAGE, l'Office Québec-Amérique pour la jeunesse, et l'Institut mexicain pour la jeunesse. Depuis sa création, cette entente a permis l'échange de plus de 2000 jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes Québécois qui vont effectuer des stages professionnels dans tous les domaines au Mexique et inversement, des Mexicains qui viennent ici faire des stages professionnels. Alors, il y a plusieurs autres ententes qui existent, je ne vous en ferai pas la nomenclature. Vous pouvez les voir sur le site du ministère. Là, les 15 ententes sont là et on peut accéder au contenu des ententes également. Alors, en dehors des ententes avec le gouvernement fédéral, nous avons des ententes évidemment avec les États fédérés et présentement, vous l'avez mentionné, les États qui sont considérés d'un intérêt particulier pour le Québec sont le Jalisco, Guanajuato et le Nuevo León. Maintenant, le troisième moteur, disons, de développement des relations, c'est les missions de haut niveau, au niveau de premier ministre ou de ministre. Alors, ces événements-là, évidemment, sont souvent médiatisés et sont l'occasion de donner un nouvel élan et d'établir des nouvelles bases de coopération. Et c'est également une façon de sensibiliser nos populations à l'intérêt de la relation. Au cours des 30 dernières années, évidemment, il y a eu plusieurs de telles missions. Là, je vous les mentionnerai pas toutes, mais je vais peut-être parler des plus importantes, et en particulier celles où j'ai été associé. Alors, en 1999, par exemple, le premier ministre Bouchard a dirigé au Mexique une mission. À l'époque, on les appelait les Missions Québec, un peu à l'image de ce que faisait le gouvernement du Canada, les grandes missions composées de leaders, des milieux universitaires, culturels, des gens d'affaires. Alors, les recteurs d'université étaient là, les dirigeants d'entreprise, dirigeants d'organismes culturels. Et cette mission-là a donné vraiment un coup d'envoi à notre relation. En 2002, la ministre de la Culture et des Communications du Québec s'est rendue au Mexique. Et on l'avait appelée la mission culture.com. C'était l'époque des dot-com. Alors, elle était accompagnée d'une cinquantaine de dirigeants là, des milieux culturels qui étaient venus non pas pour vendre, je dirais, une salade, mais plutôt pour échanger avec leurs homologues mexicains pour mieux comprendre les programmes, les politiques qui étaient en vigueur de chaque côté. Il faut dire qu'en 2000, lorsque le président Fox est arrivé, pris le pouvoir, les gens du Conaculta avaient indiqué à la nouvelle secrétaire de la culture qu'il y avait deux modèles de développement là, des industries culturelles et de promotion de culturelle. Il y avait le modèle israélien et le modèle québécois. Donc, les Québécois, les Mexicains étaient très intéressés à connaître quels étaient nos programmes, quelles étaient nos façons de faire, de sorte qu'on a organisé ces tables rondes-là et ça a permis aux Québécois également de mieux connaître le système mexicain. Et je dois dire que cette mission-là a donné vraiment un nouveau coup d'envoi à notre collaboration en matière de culture, de sorte que quelques années plus tard, le Québec a été invité d'honneur à la Foire du livre de Guadalajara, qui est la plus grande foire littéraire en Amérique latine. On dit que c'est la deuxième dans le monde hispanophone. Et également, le Québec a été invité d'honneur du Festival Cervantino, qui est le plus grand festival des arts de la scène au Mexique. En 2004, et je le souligne parce que c'est un fait unique qui ne s'est d'ailleurs pas répété, le premier ministre Charest et le premier ministre Raffarin de France ont conduit au Mexique une mission conjointe, donc les France-Québec, qui se rendent au Mexique avec des gens d'affaires pour établir ou tenter d'établir un commerce tripartite. J'étais là au moment de la préparation de cette mission-là, qui avait quand même soulevé quelques sourcils, tant du côté mexicain que même nous, à la délégation générale et à l'ambassade de France, parce que c'est pas évident de faire travailler ensemble des gens d'affaires de deux pays pour aller vers un tiers pays. Alors, je peux pas vous parler des résultats de cette mission-là, qui est un peu inédite, évidemment, mais disons qu'il n'y en a pas eu d'autres par la suite là, ailleurs dans le monde. En 2007 et 2011, la ministre des Relations internationales s'est rendue à Mexico, Monterrey, Guadalajara. En 2012, la ministre de la Culture et des Communications s'est rendue dans le Jalisco pour inaugurer le Festival Cultural de Mayo, où le Québec était également invité d'honneur. Plus récemment, en juin, évidemment, Mme Marois s'est rendue au Mexique avec un bon nombre d'entreprises québécoises. Et M. Del Rio vous a parlé des résultats de cette mission-là. Donc, en dehors des grandes missions, il y a eu également des rencontres de haut niveau, c'est-à-dire des rencontres au niveau des chefs de gouvernement. Par exemple, la première rencontre, parce qu'il y a eu à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu un peu de brouillage, de sorte qu'on n'a pas pu organiser de telles rencontres. Mais en 2001, quand le président Fox est venu ici, au Canada et au Québec, il avait rencontré le premier ministre Bernard Landry à l'époque. C'était ici à Montréal, mais c'était avant que la présence du président Fox au fameux sommet des Amériques de 2001, là où il y a eu tellement de grabuges. Le premier ministre Charest s'est également entretenu avec le président Calderón à deux ou trois reprises au cours de leur mandat respectif. Et en juin dernier, évidemment, Mme Marois a rencontré le président actuel. Maintenant, j'aimerais terminer ce tour d'horizon un peu rapide là, pour vous parler également de quelques enjeux. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le consul général que la question des perceptions, malgré tous ces efforts de coopération, malgré tous ces échanges de personnes, de tourisme, il y a vraiment un problème de perception de part et d'autre. Moi, j'ai pu constater, lorsque j'étais à Mexico dans d'autres fonctions, que les Québécois ont l'impression qu'ils connaissent le Mexique, qu'ils vont régulièrement à Cancun, ils vont à Acapulco, et ils pensent connaître le Mexique. Et leur connaissance qui dépasse les plages, ben souvent elle est influencée par la lecture des médias nord-américains qui, comme vous le savez, présentent un portrait du Mexique qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est un portrait plutôt tendancieux où on met l'accent sur les aspects les plus négatifs. Mais je présume que c'est la même chose pour un peu tous les pays. On est porté à regarder soit les désastres naturels ou les aspects criminels, les aspects les plus spectaculaires d'un pays, de sorte qu'on passe souvent à côté de la vraie réalité. Alors, c'est vraiment, je pense, un premier enjeu, le temps pour la partie mexicaine que pour la partie québécoise, de mieux faire connaître à l'autre ce qu'il est en réalité, quel est son niveau de développement et quel est le potentiel réel qu'il présente en termes de partenariat. Alors, ce qui est vrai pour la perception négative ou enfin partielle que les Québécois peuvent avoir du Mexique, c'est aussi vrai des connaissances que les Mexicains ont du Québec. On sait que c'est un pays froid, quelque part au nord, qui fait partie du Canada, qui parle une langue différente des autres Nord-Américains. Mais évidemment, en parlant des Nord-Américains, j'exclus les Mexicains, ce qui ne devrait pas être le cas, mais en parlant évidemment des États-Unis et du Canada. Et on sait également que c'est une entité qui est un peu spéciale, un peu déroutante sur le plan politique. Son évolution paraît incertaine, donc ça soulève des interrogations. Dans le domaine de l'éducation, beaucoup d'échanges, mais les institutions québécoises sont mal connues au Mexique. Les universités québécoises, peut-être à part McGill, sont pas vraiment connus. Les professeurs, souvent les universitaires, se connaissent, mais les étudiants, si on va voir des jeunes au Mexique, on leur demande « Tu veux étudier à l'étranger? Tu penses aller où? » etc. Puis si on leur parle des universités québécoises, ils sont pas capables d'en nommer. Alors, ce qui est vrai pour les universités, c'est encore plus vrai pour les cégeps. Les cégeps, on n'y connaît pas du tout. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages à faire pour mieux faire connaître nos universités. Dans les milieux économiques, là, le Québec, je dirais, les milieux économiques, en général, ce sont surtout les gens qui sont dans le commerce international, évidemment, ce sont des gens qui sont informés. Alors, ils connaissent un peu mieux le Québec. Ils savent surtout que le Québec a joué un rôle prépondérant dans la création de l'ALENA. Ils savent également que le Québec a développé des politiques économiques qui savent allier, disons, le rôle de l'entreprise privée, mais également l'intervention de l'État ou le rôle de l'État avec les financements, grande participation au capital de risque. Et ça, ce sont toutes des choses qui les intéressent. De la même manière que pour la culture, quand je suis arrivé au Mexique, le gouvernement Fox connaissait, ou enfin les experts du Conaculta connaissaient les politiques québécoises. Je dois dire que les conseillers économiques du président d'alors, plusieurs venaient de Guanajuato, où le Québec avait déjà établi des relations importantes. Moi, j'ai découvert en arrivant là-bas, par exemple, que l'Université Laval et l'Université de Guanajuato avaient des relations depuis une cinquantaine d'années au niveau de l'architecture. Alors, les facultés d'architecture collaboraient depuis une cinquantaine d'années. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été surpris. Guanajuato, c'est une ville extraordinaire, mais il y a à peu près une personne sur trois qui est architecte. Alors, il y a peu de constructions nouvelles. Alors, mais tous les architectes de Guanajuato connaissaient l'Université Laval pour y avoir étudié ou avoir fait des séjours. Malgré ces connaissances, comme le consul général vous l'a mentionné, les échanges économiques et commerciaux entre le Québec et le Mexique, ça demeure très marginal. Le Mexique est le cinquième client du Québec, mais comme vous le savez, 50% de la production québécoise est exportée en dehors du Québec, donc ça inclut le Canada, et autour de 60% de nos exportations vont vers les États-Unis. Donc, ce qui fait que tous les autres demeurent à peu près marginales. Je pense que la faiblesse là, de nos échanges commerciaux s'explique en partie par le fait qu'il y a peu d'investissements de part et d'autre. Il y a Bombardier, évidemment, qui est un cas spécial, mais il y a peu d'investissements du Mexique au Québec et il y a peu d'investissements québécois au Mexique. Et les investissements, c'est sûr que c'est le moteur de l'économie. Une grande partie des échanges entre le Québec et les États-Unis, ou entre le Canada et les États-Unis, se fait par... c'est du commerce intra-entreprise. Alors, par exemple, IBM, qui a une usine à Bromont, fait fabriquer certaines pièces au Québec. C'est renvoyé vers le Vermont, de sorte qu'il y a un échange constant. Mais comme ces investissements-là n'existent à peu près pas entre le Québec et le Mexique, ben, ça a un impact sur les échanges commerciaux. Deuxième enjeu, je dirais que c'est qu'avec la montée des économies asiatiques, l'Amérique latine et le Mexique sont malheureusement passés un peu de mode. Au début des années 2000, fin des années 90, évidemment, il y avait tout le projet d'intégration des Amériques qui était en marche. Il y avait l'ALENA qui venait de se signer. Il y avait un momentum vraiment très fort qui amenait tous les Québécois à s'intéresser au Mexique ou à peu près là, pour voir s'il y avait un potentiel. Aujourd'hui, ben, les efforts sont tournés vers la Chine, entre autres, et ça s'explique, là. Mais ce qui fait que les autres sont laissés un peu en marge. Une autre difficulté, bien, qui découle peut-être de la première, c'est la tendance des gouvernements et des organismes à consacrer du temps et des ressources à organiser des événements visibles mais ponctuels. Et on n'investit pas suffisamment pour assurer des suivis durables à ces grandes manifestations. Finalement, j'aimerais peut-être souligner trois obstacles, là, qui certains ont été déjà évoqués, qui viennent ralentir les échanges entre les personnes. Évidemment, il y a la question des visas, qui demeure entière. Il y a aussi le dossier des travailleurs temporaires du Mexique. Je sais que le Mexique souhaiterait que ce programme soit élargi à d'autres secteurs que l'agriculture et l'hôtellerie. De ce côté-là, le Mexique est demandeur et il y a certaines réticences au Canada et au Québec. Et je dirais également un troisième enjeu, c'est la négociation d'une entente en matière de sécurité sociale. Le Québec a signé des ententes avec plusieurs pays qui favorisent l'échange de, que ce soit de pensions ou de différentes mesures sociales pour leurs ressortissants qui s'en vont à l'étranger. Ça fait plusieurs années qu'il y a des négociations avec le Mexique, mais pour des raisons que certaines que je connais, d'autres que je connais plus. ces négociations-là à Chop, de sorte qu'il n'y a pas encore de telle entente. Et c'était souhaité qu'on puisse le faire pour favoriser les échanges. Alors, voilà, c'était ma présentation. Beaucoup de redites avec le consul général, mais ce qui est excellent, ça veut dire qu'on s'entend. Et ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, ça me fera plaisir également d'échanger avec vous durant la période de questions.
Merci.